Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 3 mars. Et votre émission, vous écoutez votre émission qui vous parle de voyage, de nature et de science. Et oui, je suis de retour avec vous.
Bravo.
Et avec mes fidèles compagnons et compagnes, André, Étienne et Yvan Deslauriers. Un petit contraste de température. On annonçait du temps doux aujourd'hui. Je regardais la météo, moins 16, moins 20. Évidemment, quand on est moins 32, c'est ça. On appelle ça un redoux.
Effectivement.
Bien. André.
Oui,
vous nous parlez de quoi?
Alors, avant de vous dire ce dont je vais vous parler, je voudrais vous faire part d'une nouvelle très excitante, parce qu'on est très fiers ce matin.
On dit tout oui.
Mais justement, écoutez bien, vous allez trouver dans la presse plus notamment, un vidéo qui parle de vues et voix.
Ah oui.
Vous allez voir un témoignage très intéressant, très émouvant, d'un monsieur qui est un ancien enseignant.
Exactement.
Et puis, vous allez voir, la fin, c'est vraiment prenant, puis ça montre l'importance de la mission de Vues et Voix. Alors, je veux juste vous rappeler d'abord de l'écouter, et puis, ou de le voir, et puis que pour écouter Canal M, vous pouvez l'écouter à la télévision, Vidéotron, c'est 577 Vidéotron, Bell 949, ou sur Internet, sur le site Vues et Voix, Vues étant au pluriel, V-U-E-S et Voix, notre nouveau site est en fonction. Alors maintenant, je vais vous parler de mes articles, excusez-moi. D'abord, je vais vous parler de l'état de santé de notre somptueux, majestueux Saint-Laurent. Ça, c'est le premier article dont je vais vous parler, qui est extrait de Québec Science, le numéro de décembre 2014. Et ensuite, pour faire peut-être un suivi des articles de Marie de la semaine dernière, le secret de la mésange pour survivre en hiver.
Donc, on reste dans les oiseaux.
On va rester dans les oiseaux. C'est un article que je l'avais trouvé même avant que Marie en parle, puis je trouve que ça allait très bien avec. Toujours extrait de Québec Science du mois de décembre 2014.
Yvan.
Bonjour à vous tous. D'abord, il semble que ça fait deux semaines que j'oublie de dire bonjour aux gens à la fin d'émission.
Oui.
Alors aujourd'hui, je vous dis bonjour tout
de
suite.
On a eu beaucoup de commentaires à cet effet-là, Yvan.
J'imagine. Hein?
Ah oui.
Oui, les gens m'en parlent dans la rue. Alors moi, mes deux articles, un, c'est un projet de la NASA qui est fait en collaboration avec deux professeurs de l'Université de Sherbrooke sur le gel et le dégel.
Et, ça nous touche beaucoup.
Oui, j'ai pensé à toi quand j'ai choisi ça.
On
n'est
pas concernés du tout.
En deuxième partie, c'est une entrevue avec un futurologue qui a imaginé comment ça allait se passer en 2052.
Oh, est-ce qu'on sera là?
Il n'y a pas de chance en ce qui me concerne.
Peut-être. Maintenant, de mon côté, vous savez, je vous avais parlé de l'Amérique submergée. Maintenant, j'avais parlé de Norfolk en particulier. On va aller d'un autre côté à New York, parce qu'eux autres aussi ont été affectés énormément. Puis, on fait une tournée des volcans, particulièrement des volcans d'Italie. Alors, restez avec nous.
Donc, l'état de notre somptueux, majestueux Saint-Laurent, j'aime beaucoup l'appeler comme ça, ça fait rire tout le monde, mais c'est comme ça que je le perçois.
Ben, c'est bien.
Alors, ce que l'on sait actuellement en ce qui concerne les plastiques, c'est que la plastique est en train de coloniser les moindres recoins de notre planète. Ça, on le sait, on en a tous entendu parler.
Oh oui, et partout.
Mais, et partout, exactement. Mais justement partout. Parce que là, des chercheurs de l'Université McGill viennent d'en découvrir dans les sédiments de notre majestueux Saint-Laurent. C'est la première fois que des micro-fragments de plastique sont découverts dans un fleuve en Amérique du Nord. Terrible, hein? Alors, ce qu'on appelle microplastique, ce sont des fragments de plastique qui mesurent moins de 5 mm de diamètre. Alors, soit ils proviennent de la dégradation de déchets comme des emballages, des sacs, des bouteilles, accélérés par le rayonnement solaire et les mouvements de l'eau, soit ils sont directement fabriqués sous forme de microbilles de polyéthylène et ajoutés comme abrasifs, soit dans les produits cosmétiques, les savons, les exfoliants, les pâtes dentifrices et les nettoyants. Alors, ce sont des microbilles que des scientifiques ont ramenées par hasard du fond du Saint-Laurent. Ils n'étaient pas allés chercher pour les trouver.
Ça se présente comment, ça, des microbilles?
Alors, ces microbilles, bon, d'abord, ce qu'on a remarqué, c'est alors qu'on échantillonnait des organismes vivants dans le sédiment, on les a retrouvées, elles se présentent sous la forme de sphères multicolores d'une moyenne de 0,76 mm, c'est-à-dire la taille d'à peu près d'un grain de sable, bien qu'elles puissent varier. Et on les trouve particulièrement entre le lac Saint-François et la ville de Québec. Et les scientifiques en ont trouvé dans 8 des 10 zones inspectées.
Oh, c'est beaucoup, ça.
C'est beaucoup, hein. Et à certains endroits, ils ont compté plus de 1000 microbilles par litre d'eau. Et cette concentration, elle rivalise même avec les sédiments océaniques les plus contaminés de la planète. Mmh. Donc, l'état de santé de notre Saint-Laurent, vous voyez qu'il n'est pas exceptionnel.
C'est une nouvelle forme de pollution, ça?
Absolument. Absolument. Et ce qu'ils disent dans l'article, ils disent même que les concentrations sont sûrement sous-estimées puisque les tamis utilisés ne laissaient passer que des particules de moins de 5 mm.
Donc, il y en aurait plus.
Donc, il y en aurait plus, exactement. Donc, ils estiment à l'heure actuelle que 88% de la surface des océans est polluée par des microfragments de plastique. Mais ce n'est que récemment que cette contamination a été constatée dans les milieux aquatiques d'eau douce. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et puis de dramatique. Alors, qu'on en découvre maintenant au fond de l'eau, c'est une première. On pensait que les microplastiques flottaient. On n'a jamais pensé qu'ils allaient tomber, qu'ils passaient des grands lacs aux océans et qu'ils s'y accumulaient. Mais le pire de tout ça, c'est que le polyéthylène qui les compose, c'est une véritable éponge à contaminants. Donc, ce polyéthylène-là, il attire les polluants chimiques, comme les pesticides, les polychlorobiphényles, ou encore l'huile de moteur qui se trouve dans le fleuve. Et on sait qu'il y en a pas mal. Hein? De sorte que les microbilles s'alourdissent et qu'à ce moment-là, elles coulent au fond du fleuve, elles se retrouvent dans les sédiments. Et ça, c'est grave, parce qu'à ce moment-là, le risque est élevé pour que les animaux qui évoluent dans le fond du Saint-Laurent en ingèrent et se contaminent, eux aussi, par le fait même. Hein. Donc, des poissons comme la gobie à taches noires, la perche chaude, la barbotte brune, le meunier ou la carpe pourraient accidentellement, évidemment, avaler des microplastiques en se nourrissant des invertébrés qui vivent au fond du fleuve.
Est-ce que c'est la seule étude qui parle de cette découverte-là?
Ben pour le moment, justement, il y a effectivement une seule étude qui a été menée en France et qui a démontré que là aussi, des poissons de rivière, des goujons, ingéraient effectivement les microplastiques puisque des fragments avaient été retrouvés dans leur système digestif. Et en raison de leur extrême petitesse, les microbilles échappent aux usines de traitement des eaux usées, parce qu'elles sont vraiment très petites. Il faudrait vraiment carrément arrêter de produire ce genre de microgranules et privilégier des solutions plus naturelles avec des composants dégradables afin d'éviter que le fond du Saint-Laurent soit complètement recouvert.
Ce que je comprends, ça veut dire qu'on peut les retrouver dans notre eau potable. On dit que ça échappe à la filtration.
Je ne sais pas, ils ne le disent pas dans l'article, alors je ne veux pas trop m'engager dire ça, mais logiquement, ça pourrait être ça finalement. Mais
on peut se poser la question, en tout cas.
On peut se poser la question, l'article n'y répond pas et je ne suis pas capable d'y répondre. Alors, je suis désolée, je n'ai pas de problème avec ça, mais je n'ai pas la réponse à vous donner. À l'heure actuelle, certains États américains comme l'Illinois, le New York, le Minnesota, la Californie, ont décidé d'interdire l'utilisation des produits contenant des microbilles. Au Canada, pour le moment, rien n'a encore été proposé. Quand même, cependant, de grands fabricants comme Unilever, Johnson & Johnson, Procter & Gamble ou L'Oréal se sont engagés eux-mêmes à les supprimer et à les remplacer progressivement par des matériaux plus respectueux dans l'environnement, comme les sels marins ou des éclats de fruits à coque. Alors, cet article était écrit par Marion Spé dans Québec Science du mois de décembre. Mmh.
Alors, l'Amérique submergée, c'est Richard Etu qui nous en parle dans la presse. Ça a été des articles qui ont été publiés à plusieurs reprises, donc 2 février, 3, 4, oui, je crois. 4, je vous ai déjà parlé de Norfolk, qui est, vous connaissez, Langley. Et brièvement, on avait dû jucher des maisons sur pilotis, 3 mètres. Et dans certains cas, on avait dû racheter des maisons pour les démolir. On donnait un programme subventionné d'environ 150 000 $. Mais vous vous rappelez probablement de Sandy en 2012 à New York, où il y a des centaines de propriétaires d'un endroit qui s'appelle Oakwood Beach. C'est un quartier de Staten Island à New York. Et c'est des gens qui ont accepté de vendre leur maison à l'État. Il y a 310 propriétaires d'Oakwood Beach sur un total de 319 qui ont vendu leur bungalow, qui était souvent modeste, et ils l'ont vendu à l'État de New York après le passage de l'ouragan Sandy, 29 octobre 2012. J'y étais, donc je me rappelle bien. Les autorités leur avaient proposé...
C'est une expérience de vie, ça, quand
même. Oui, très bien. Oui, ça ferait une émission. Les autorités leur avaient promis de proposer 10 % de plus que la valeur de leur maison avant la méga tempête. Et après le passage d'un ouragan, d'une super tempête, le réflexe, généralement, des populations touchées, c'est toujours la même chose, c'est de rebâtir. Les gens veulent rester sur place, rebâtir selon des nouveaux critères dans les meilleurs cas, mais rétablir néanmoins leur demeure au même endroit. Or, après les inondations et les destructions qui ont été causées par l'ouragan Sandy, 4 quartiers de la région de New York, 3 Staten Island, puis un à Long Island, qui est bien connu, ont opté pour une autre solution, le retrait.
Et... Ben, attendez. Ben, je comprends pas, parce que là, vous dites que l'idée principale, c'est de rester... Mais là, eux, ils ont décidé de partir.
Ils ont décidé de partir. Ah, mais le retrait, ça suscite généralement une opposition farouche aux États-Unis, chez la plupart des gens. Pourquoi il y en a été autrement à Oakwood Beach? Ben, c'est qu'un an auparavant, Staten Island et le reste de New York avaient été frappés par Irène. Un autre événement météorologique extrême qui était censé se produire une fois tous les 100 ans. Selon des probabilités scientifiques. Alors, certains propriétaires d'Oakwood Beach venaient à peine de finir de réparer les dégâts des rains lorsque Sandy a dévasté leur quartier vulnérable, d'ailleurs. Sandy, bon, ça a été le coup de grâce. Et Andrew Cuomo, qui est le gouverneur de l'État de New York, qui était à ce moment-là le gouverneur de New York, a consacré une partie de l'aide fédérale de l'après-Sandy, qui était 400 millions de dollars, au rachat de centaines de maisons à Oakwood Beach et dans les autres quartiers de New York qui ont participé à ce programme-là. Mais New York ne peut s'arrêter là. Pour assurer la protection de la ville à long terme, les autorités devront appliquer le concept du retrait stratégique, on appelle le retrait stratégique, à d'autres zones qui sont vulnérables aussi, pas seulement au Oakwood Beach.
Est-ce qu'ils vont imaginer de le faire préventivement?
Oui, oui, d'une certaine façon, oui. Ça va être ces quartiers-là dont on parle, c'est des quartiers connus, hein? C'est Brooklyn et Manhattan.
Ce n'est pas des quartiers. Là.
Absolument. Wow. On parle de quelque chose. Oakwood Beach, bon, c'est vague dans l'esprit des gens, Staten Island. Mais lorsqu'on parle de Brooklyn et Manhattan, ben là, ça touche le cœur des gens. Hein?
Et c'est le cœur de la ville aussi.
Oui. À Oakwood Beach, plusieurs maisons placardées attendent l'arrivée des démolisseurs. Oakwood Beach ne sera bientôt plus viable pour les humains. Ça sera un endroit seulement pour les animaux. Il y a un programme qui a été lancé aussi, qui est un concours international, Rebuild by Design, qui a accouché de 6 projets. On en parlait, c'est très technique. Il y a des digues, il y a toutes sortes de choses. C'est un projet quand même de 1 milliard de dollars.
Hein. Ça va être comme Venise bientôt?
Un peu, c'est ça, absolument. Chez nous, le littoral est attaqué aussi. Depuis 10 ans maintenant, la ville de Sept-Îles est aux prises avec l'érosion accélérée du littoral dans certains de ses quartiers qui sont les plus recherchés. Les scientifiques attribuent cette érosion au changement climatique, évidemment. Mm-hmm. Alors, les tempêtes sont de plus en plus fortes et elles surviennent alors qu'il y a de moins en moins de glace à l'automne. Or, la glace agit comme un bouclier, mais une protection, c'est ça. Ouais. Les taux d'érosion sont plus élevés que la normale. On voit que les records de température ont bien sûr, des impacts. Les recherches au début des années 2000 ont déclenché une prise de conscience importante sur la côte nord. L'érosion a évidemment un impact bien plus grand sur les côtes meubles, en sable ou en argile sur la côte nord. C'est le cas de l'environ la moitié du littoral. En 2005, une étude commandée par le ministère de la Sécurité a conclu que 63 % des côtes meubles en sable, si vous voulez, était en recul dans la région. Et le problème est accentué par le fait que les villes et les villages de la Côte-Nord sont surtout établis sur les portions les plus accueillantes, donc sur les plages.
Évidemment.
Et je termine avec ça, il y aurait beaucoup à dire. Il y a des résidences qui ont été détruites, déménagées avec compensation à cette île. Donc, un peu comme le programme américain, si on veut. Et bien, de plus en plus, les plages sont jonchées de blocs de granit pour protéger. Or, les scientifiques sont formels. On appelle ça l'enrochement. Mm-hmm. L'enrochement n'est pas efficace à moyen terme pour maîtriser l'érosion sur les plages. Au contraire, l'enrochement fait disparaître la plage.
Comment ça? À grande vitesse.
Bien, j'y reviendrai en parlant des plages un peu partout dans le monde. Okay. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Parce qu'il y a deux façons. Il y a l'ensablement et il y a l'enrochement. Et l'enrochement, dans le fond, détruit les plages. Je reviendrai à un autre moment sur le...
Parce que les plages,
c'est quand même... Il y a des gens qui vont sur les plages.
Il y en a qui vont sur les plages.
Moi, je vais souvent aux îles de Madeleine, mais ça, c'est un problème.
Ils sont en train de disparaître. Alors, c'est Charles Côté qui nous en parlait dans la presse 2, 3, 4 février.
Faudrait bien débarrer la barrière, on a du canot à monter. La senteur, la forêt des conifères me dit que le sol est dégelé. Et le beau temps qui s'en mêle, qui ne fera que passer, n'a pas l'air de s'en faire, il y sera toute la journée. Lolo lève, lolo lève, lolo lève la levée. Lolo lève, lolo lève, lolo lève la levée. Le lièvre habitant la pépinière s'est vêtu pour aller fêter. Mais le pauvre n'y pas manqué d'air, son collet était trop serré. Et les jolies bois du cerf qui les donnerait volontiers, plutôt perdre une partenaire que de finir la tête coupée. Lolo lève, lolo lève, lolo lève la levée. 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 Il est fort le courant dans la rivière, les poissons semblent s'amuser. Doucement faisons-leur une prière, dire qu'il y en a qui vont les pêcher. Il est temps que quelqu'un s'en mêle, qu'on commence à s'en parler. Qu'on se fasse un lot d'équerre et qu'on tourne les coins carrés. Lolo lève, lolo lève, lolo lève la levée. 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 Lolo lève, lolo lève, lolo lève la levée.
Alors, merci Jean-Sébastien pour cette chanson qui s'appelle L'eau lève.
L'eau lève.
Oui, du groupe Bernadette. Alors, Michel, tu as un défi de continuer sur ce sujet-là. Moi, je suis un amoureux des îles de la Madeleine, puis je suis très inquiet.
Ah, ben oui, bien, on en reparlera. Alors, probablement la semaine prochaine.
S'il te plaît. Alors, moi, de mon côté, des chercheurs de l'Université de Sherbrooke contribuent à un projet de la NASA. C'est un article écrit par Thierry Haroun dans Le Devoir du 21 février 2015 dans le cahier thématique Université-Recherche. Une collaboration des chercheurs d'ici avec la NASA permettra de mieux comprendre l'impact du gel et du dégel du Nord sur les changements climatiques et de mesurer les risques écologiques de son développement. Le SMAP, le S-M-A-P, ça vous dit quelque chose?
Pas du tout.
Pas vraiment.
OK, alors je vous en parle. En fait, c'est le satellite de télédétection appelé Soil Moisture Active Passive qui a pris son envol le 31 janvier depuis la base Space Launch Complex 2 située en Californie et dont les données sont attendues au sol au début du mois d'avril, le mois prochain.
C'est bientôt, hein?
Développé par la NASA, ce satellite dernier cri fournira aux météorologues, aux climatologues, aux agronomes et aux scientifiques des données inédites sur l'humidité du sol, les paramètres de végétation et le gel au sol. Pour y voir plus clair, Le Devoir s'est entretenu avec deux experts qui participent à cette expérience, soit Alain Royer et Alexandre Langlois, qui sont professeurs au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke et chercheurs au Centre d'applications de recherche en télédétection de cette même université. De manière pointue, on notera que le nouveau satellite possède à son bord deux capteurs micro-ondes complémentaires. Il y en a un qui est actif, qui émet des ondes radar et mesure les réflexions de ces ondes sur la surface du sol. Et l'autre est passif, lui, il mesure les ondes qui sont émises naturellement par la surface.
Dites-moi, Yvan, est-ce qu'on va voir des conséquences concrètes de ce projet-là?
On sait depuis quelques années que l'humidité du sol fait partie des paramètres écologiques les plus importants pour la compréhension et le suivi des changements climatiques. Mais ce projet étudiera la question de près. Pourquoi? C'est un peu le chaînon manquant de toutes les analyses. On sait à peu près ce qui tombe sur la Terre. On sait à peu près ce qui s'écoule dans les rivières. Mais il nous manque un bout dans le cycle hydrologique, c'est-à-dire cette eau qui s'accumule sur la surface du sol, qui est en partie évaporée, en partie ruisselée et en partie dirigée vers les réserves aquifères souterraines. Cet aspect de l'humidité est une variable clé des prévisions météorologiques. D'ailleurs, les météorologues se sont aperçus depuis 10 ou 15 ans que si on avait une meilleure connaissance de cette humidité, on pourrait améliorer les prévisions météorologiques. Et c'est pour cette raison qu'Environnement Canada s'est associé à ce projet. Environnement Canada souhaite, au fond, intégrer ce paramètre dans les modèles de prévision.
Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est l'impact des chercheurs de l'Université de Sherbrooke?
D'abord, on va rester au niveau du sol. Le suivi des périodes de gel et de dégel du sol sont en rapport avec l'activité végétale. C'est un autre des grands objectifs du SMAP. Et c'est précisément ici où l'expertise de nos deux chercheurs est mise principalement à contribution. C'est en effet un phénomène que la NASA entend étudier dans le détail, confirme le professeur Royer. Ce paramètre est étroitement lié à l'activité de photosynthèse des plantes et de la forêt en particulier. L'hiver, comme l'automne, la forêt boréale tombe en dormance. Donc, lorsque le sol est gelé, ça signifie qu'il y a moins d'absorption du gaz carbonique. Comme les échanges de dioxyde de carbone, le CO2, et d'oxygène par photosynthèse sont au point mort, il y a plus de gaz à effet de serre, donc plus de réchauffement. Un changement de l'état du sol lié au réchauffement climatique pourrait ainsi avoir des effets de rétroaction significatifs. Alexandre Langlois juge par ailleurs que le projet SMAP viendra combler un vide à l'échelle scientifique et météorologique au sujet de ce phénomène. Absolument, il est connu que ces cycles surviennent, mais nous n'avons pas d'informations à savoir où, quelle superficie et combien de temps le sol reste non gelé. On parle alors d'identification des patrons spatio-temporels des cycles gel et dégel. Sans compter l'importance que cette information aura sur les efforts du développement du Nord, à savoir quelles régions sont plus à risque pour les futures infrastructures comme les routes, le rail, les édifices, les pistes d'atterrissage, etc.
Finalement, ça veut dire qu'on en revient à étudier le réchauffement sur le nord de la planète, c'est ça?
Exactement. Et le professeur Langlois rappelle comme il est fascinant d'étudier le nord, qui vit des bouleversements importants en raison du réchauffement du climat. Le nord est la première des victimes des changements climatiques, car le réchauffement qui y est observé est plus fort que partout ailleurs sur la planète. C'est donc en quelque sorte un prélude de ce qui est à venir chez nous. Quoi qu'on commence déjà à observer les effets, il est fascinant de voir la fragilité d'un environnement aussi hostile et à la fois si magnifique. On revient très humble d'une visite dans l'Arctique.
C'est bien dit, hein, tout ça, là.
N'est-ce pas,
hein? Belle conclusion.
Alors, cet article, justement, était écrit par Thierry Haroun dans le Devoir du 21 février 2015 et c'était dans le cahier thématique Université Recherche.
Alors, imaginez-vous des drones pompiers. Oui, 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 absolument.
C'est pas drôle, ça.
C'est l'équipe... Mais oui, mais vous allez voir que c'est génial, hein? L'équipe des pompiers d'Alma compte aujourd'hui un nouveau membre, c'est-à-dire un drone à 8 hélices. C'est le service de prévention des incendies qui est le seul premier répondant au Québec à faire appel aux astronefs sans pilote dans le cadre de ses opérations. Alors, l'engin, il a la forme d'une soucoupe volante de couleur orange. Il est muni de caméras thermiques, de vidéos, et le drone aide à la prise de décision dans des contextes d'urgence. Avant même d'envoyer des gens, maintenant, les pompiers, finalement, qui ne sont pas les drones, peuvent faire une saisie d'image et utiliser le drone, notamment dans le cadre de recherches en forêt, de sauvetage en hauteur ou sur les glaces. C'est très aidant, puisque l'engin peut couvrir une distance de 800 mètres en restant dans le champ visuel de l'opérateur. Même la Sûreté du Québec envisage de les utiliser.
Oh.
Voilà. On revient après la pause, j'ai oublié de vous le dire.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Bon, eh bien, écoutez, la semaine dernière, Marie vous a fait écouter des chants d'oiseaux et, entre autres, j'étais à faune à ce moment-là, mais j'ai quand même pu écouter et, notamment, il y avait la mésange. Et donc, cette fois-ci, je vais vous parler d'un article qui s'appelle « Le secret de la mésange », qui était dans Québec Science du mois de décembre 2014 et qui était écrit par Marine Corneau.
Donc, c'est pas un roman d'aventure, là?
Ah, vous allez voir que c'est presque une aventure, parce que pour une mésange qui pèse 10 grammes, survivre à l'hiver que nous avons, c'est toute une aventure. Alors, donc les premiers froids, là, ça nous met mal. Hein. Moi, j'ai toujours l'impression que je ne passerai jamais l'hiver. Mais imaginez un instant ce que subissent les animaux pendant des mois pour ceux qui n'hibernent pas, puisque la petite mésange n'hiberne pas. Et donc, le chercheur François Vézina a tenté de comprendre comment les mésanges à tête noire font pour passer le cap de l'hiver. Parce que donc, ces oiseaux ne migrent pas. Et pour vivre, ce qu'il dit textuellement, les mésanges doivent maintenir leur température interne à 40 degrés, voire 41 degrés Celsius. Donc, c'est bien plus élevé que la nôtre. Mm-hmm. Ça veut dire que quand il fait moins 30 degrés dehors, elles doivent donc générer 70 degrés Celsius et elles ne pèsent que 10 grammes. Alors évidemment, le chercheur est très admiratif parce que plus le corps d'un animal est petit, plus sa surface en contact avec l'air est élevée par rapport à son volume. Le résultat, évidemment, c'est que ces bêtes perdent proportionnellement davantage de chaleur que les grosses et doivent dépenser beaucoup plus d'énergie pour maintenir leur température. L'hiver, par exemple, la dépense énergétique des mésanges est telle que, au coucher du soleil, elles ont tout juste assez de réserves pour survivre quelques heures. Elles doivent manger dès le matin pour engraisser et pouvoir jeûner la nuit suivante. Leur masse fait donc le yo-yo dans la journée. Alors, avec ses étudiants, ce qu'il a fait, c'est qu'il a équipé ses protégés pour les observer et sans avoir à les capturer systématiquement. Le but de l'opération, c'est d'en apprendre plus sur la capacité des oiseaux à s'ajuster rapidement d'un jour à l'autre aux variations de température. Bon, la thermorégulation chez les oiseaux, elle est étudiée depuis les années 50 et on commence assez bien à la connaître. Mais les mécanismes impliqués, on ne sait pas très bien ce qui se passe encore lorsque la température varie de 0 à moins 30 degrés Celsius en 24 heures.
Oh, c'est considérable. Comment il procède à ce moment-là?
Alors, comment il fait? Donc, il prend les oiseaux et il veut savoir comment les oiseaux perçoivent ce signal de moins 30. Est-ce qu'ils le perçoivent comme un relâchement des contraintes thermiques? Est-ce qu'ils perdent leur capacité d'endurance? À quelle vitesse leur métabolisme s'ajuste? Et c'est ce qu'ils veulent découvrir. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'entre septembre et mars, ils capturent les mésanges, ils les pèsent, ils les mesurent, et leur performance métabolique est également évaluée. Alors, pour faire ceci, les scientifiques placent les oiseaux dans une chambre métabolique, c'est comme ça qu'ils l'appellent, dont la température est strictement contrôlée. On mesure le métabolisme de base de l'organisme, ainsi que le métabolisme, ce qu'ils appellent maximal. Pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on fait frissonner l'animal en abaissant la température et on mesure alors sa consommation d'oxygène jusqu'à ce que le métabolisme n'augmente plus. Alors, comment est-ce que les mésanges s'adaptent au froid? Ça, c'est toute la question. Vous allez voir qu'il y a plein de réponses. Je vais tâcher de vous les dire toutes parce qu'elles veulent survivre à l'hiver. Alors, elles multiplient les stratégies. D'abord, elles profitent d'un plumage assez dense, même si elles sont toutes petites, qu'elles peuvent gonfler pour emprisonner l'air. C'est un petit peu ce que nous faisons quand nous rembourrons nos manteaux de duvet, qui est un merveilleux isolant, on le sait. Hein? Mais chez les petits oiseaux, il y a une limite physique à la quantité et au volume des plumes. Donc, les mésanges, comme d'autres espèces, doivent miser sur des changements physiologiques importants. La nuit, par exemple, leur température interne descend de 5 à 6 degrés, ce qui leur permet de réduire la consommation de leurs réserves. Mmh. Hein? Mais il faut plus que ça. Pour augmenter leur endurance au froid, les mésanges commencent à modifier leur physiologie dès la fin de l'été. Vous vous rendez compte? Ça me fascine complètement. D'abord, leur taux de globules rouges dans le sang, il s'accroît. Et conséquemment, les globules rouges transportent davantage d'oxygène, ce qui permet à l'oiseau de maintenir son métabolisme. Ensuite, la taille de plusieurs organes, le cœur, les intestins et les muscles pectoraux augmentent elles aussi. C'est incroyable, hein?
Ah oui.
Moi, je trouve ça tellement... Quand on pense à une petite bête comme ça, qui est capable de s'adapter comme ça, alors... Ce qui fait que donc, n'importe quel muscle, en se contractant, produit de la chaleur. Donc, quand les mésanges se mettent à frissonner, contractant leurs muscles très rapidement, elles réchauffent leur organisme entier. Mm-hmm. La question que je me posais, c'était, nous, quand on frissonne, est-ce que c'est pour réchauffer notre organisme? Bon, baf, c'est un aparté. Donc, plus la masse de leurs muscles pectoraux est grande, plus ils produisent de chaleur et plus ils assurent leur endurance au froid. Alors, évidemment... tous les individus ne sont pas égaux quand le mercure chute. Et il y en a certains qui tirent mieux que les autres leur épingle du jeu.
Donc, est-ce qu'il y a des exemples particuliers dans ce domaine-là?
Il y a des exemples particuliers, mais ce n'est pas encore vraiment défini. Ce que dit le biologiste, c'est qu'il croit, il dit bien qu'il croit, hein, ce n'est pas encore prouvé, qu'il existe un lien entre l'endurance au froid d'un individu et son succès reproductif. Et c'est ce qu'il compte mettre en évidence. Jusqu'ici, personne n'a encore prouvé que les individus les plus performants l'hiver sont aussi ceux qui transmettent le plus leurs gènes. Alors donc, l'idée derrière tout ça, c'est de mieux comprendre comment les changements climatiques vont affecter les espèces et quelles sont celles qui s'adapteront le mieux à un environnement, résume le chercheur. Je vous rappelle que donc c'était un article extrait de Québec Science du mois de décembre.
On entend la maison.
Oui, merci. C'est super.
Thank you.
j'étais appris par le tango.
C'était génial, hein?
Un petit retour en Argentine. Ah, soyons sérieux un peu. Je vous parle de volcans. Ça s'appelait la tournée des grands volcans. Mais en fait, c'est en Italie, là. Pas des grands volcans du monde. Et c'est Marie Tison qui nous en parle dans la presse du 14 février 2015. Mais je commence avec le Vésuve, et peut-être le plus connu et le plus célèbre. Vous avez un sentier pédestre qui serpente au milieu des fleurs sauvages. Belle fleur sauvage, d'ailleurs, et qui donne une vue superbe sur la baie de Naples. Et le lieu devient plus dramatique à mesure qu'on monte vers le sommet. Vous avez de la lave noire qui durcit, qui forme des murailles impressionnantes. Enfin, on peut se pencher au-dessus d'une barrière pour jeter un coup d'œil au fond du cratère. Et le volcan n'a pas l'air bien méchant. Il n'y a rien qui bouillonne à ce moment-là.
Bon, on sait quand même qu'il n'est pas très gentil, hein?
Non, pas toujours, hein? Parce que la dernière grande éruption qui a donné au Vésuve son profil actuel, parce que les volcans changent à chaque fois qu'il y a une éruption. Mm-hmm. Donc, ça remonte à 1944. Et bon, depuis attendez. Ce temps-là, ben, c'est le calme.
Avant, il y en a quand même une très célèbre aussi.
Ah oui, absolument. Je vais vous donner la date même. C'est le 24 août de l'an 79 que le Vésuve est entré en éruption et qui a projeté la pierre ponce, des scories et des cendres. Et la grande majorité des 20 000 habitants de Pompéi ont été alertés par des signes avant-coureurs. Et la plupart avaient fui à temps, ce qu'on ignore souvent. Hein?
Oui,
Mais environ un million de personnes sont mortes par asphyxie dans un nuage de gaz, de vapeur d'eau, de cendres, qui a dévalé la pente à 200 km/h. Hein?
200 km/h?
Oui, donc ça ne vous donne pas grand temps pour vous sauver si vous êtes sur place.
C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui sont restés pris. Hein?
Oui, c'est ça. Mais quand même, il y avait eu des signes avant-coureurs. Il y avait 20 000 personnes qui sont parties. Donc, évidemment, un grand malheur. Et la couche de cendres et de boue a permis... C'est ça qui a permis de conserver la ville, qu'on peut retrouver maintenant. Les visiteurs, maintenant, sont nombreux. On nous dit qu'il y a 2,3 millions de visiteurs par année, et surtout l'été. Le site est quand même immense. Hein? Alors, il est possible de prendre une rue secondaire pour s'éloigner de la foule et essayer de ressentir ce que pouvait être la vie il y a près de 2000 ans à cet endroit-là. Et c'est fort intéressant. Hein? Les Romains ont marché dans ces rues de pierre. On voit même les roues de leurs chars qui ont creusé des ornières. On se masserait sur place, on peut recréer l'endroit. Alors, dans ces grandes villas, les riches ont pris le temps de vivre dans des jolis jardins autour d'une fontaine. On peut s'imaginer quand on se promène. Il y a des petites échoppes, des artisans faisaient leur pain, préparaient leur repas. On voit même les vacistas, les toilettes même. Toutes les classes sociales ont déambulé dans ces endroits, particulièrement dans le forum. Alors, quelques éléments rappellent le drame terrible d'août 79. On a, par exemple, laissé sur place quelques moulages des corps des victimes de l'éruption.
Oui,
c'est très émouvant. Certaines de ces personnes sont allongées, d'autres sont accroupies ou prostrées. Alors, c'est quand même très impressionnant à visiter.
À un moment donné, j'ai vu une photo, c'était un couple qui est en cuillère.
Tout à fait.
Oh, c'était très...
Oui.
Wow, bouleversant.
Très beau site à visiter. On a été énormément de monde. Il y a un autre endroit aussi qui est peut-être moins connu.
Toujours en Italie.
Oui, qui est Herculanum.
Ah oui!
Parce qu'on associe...
C'est là la villa au papyrus.
Oui, c'est ça. Exactement. Herculanum et Pompéi, souvent on les associe. La petite ville d'Herculanum comptait autour de 4000 habitants. Et encore mieux préservée que Pompéi, parce qu'elle a été couverte par une couche de cendres, de pierres, de gaz, qui était haute de 16 mètres. Quand elle s'est solidifiée. Imaginez le travail pour reconstituer cet endroit-là. Hein? C'est quand même phénoménal. Cette couche a préservé des matières organiques comme le bois, les végétaux, les plafonds, les toits. Et c'est pour ça qu'on est capable de retrouver presque intact à certains moments. Dans les termes, les mosaïques sont encore éclatantes. Et ça, c'est fascinant. À l'époque, Herculanum se trouvait au bord de la mer. On a d'ailleurs découvert sur ce qui était alors la plage environ 300 squelettes humains Des habitants y avaient cherché refuge lors de l'éruption du mois d'août 79 avec leur argent, la monnaie, les bijoux. Donc, on peut entièrement reconstituer. Alors, le site archéologique d'Herculanum n'offre pas les longues perspectives de Pompéi. Il est plus compact, moins intimidant. Mais ce qu'il y a d'important aussi, c'est qu'il accueille beaucoup moins de visiteurs.
En tout cas, ça donne envie d'y aller. Hein? Je veux faire partie des milliers de visiteurs.
Très intéressant à découvrir. Encore mieux, peut-être, à l'automne ou au printemps, quand
oui,
on était...
Il y a moins de monde.
Je vous parlais d'autres volcans, un autre moment. Je vous parlais d'autres volcans importants, entre autres choses, l'Etna, qui est assez... Et Stromboli. Stromboli, et je vous laisserai savoir pourquoi Stromboli a aussi une importance récente, très, très récente. Alors, c'était Marie Tison qui nous en parlait dans la presse du 14 février. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
C'était génial.
J'ai toujours rêvé que Gloria Gaynor ferait l'introduction d'un de mes articles.
Oui, et c'est la conclusion de l'autre. Oui,
c'était la conclusion du tien, « I will survive ».
Et aussi, « I was afraid I'd be petrified ». Oui, ça, c'est pour les gens du Stromboli et du Vésuve.
Alors moi, mon article qui fait la suite de « I will survive », c'est justement « Comment survivre ». À 2052. C'est un article écrit par Claude Lafleur dans Le Devoir du 28 février 2015, donc il y a quelques jours, dans le cahier thématique sur le développement durable dans Le Devoir. Que sera le monde en 2052? C'est le défi. C'est à peu près 40 ans, les amis.
Oui.
C'est le défi de répondre à cette question que s'est donné Jorgen Randers. Là, je ne pense pas prononcer ce nom-là trop souvent dans ma lecture. Professeur en stratégie climatique à l'École norvégienne d'enseignement des affaires. Il y a 3 ans, il a publié 2052, A Global Forecast for the Next 40 Years, ouvrage dans lequel il trace le destin de la planète d'après les tendances économiques, politiques, sociales et écologiques qu'il observe. « J'ai 70 ans », commence par dire ce Norvégien à la voix chaude, que j'essayerai pas d'imiter. Je m'intéresse au développement durable depuis 40 ans, ayant été l'un des auteurs du rapport The Limits to Growth, les limites de la croissance, publié en 1972. Là, il faut que je fasse attention parce que tu as dit 79 tantôt, mais c'était vraiment 79.
Ah, oui, c'était 79. Oui,
qui posait pour la première fois la question suivante. L'humanité peut-elle continuer de croître sur une planète aux ressources limitées? Il se considère avant tout comme un futurologue qui recourt à une panoplie de modèles mathématiques, économiques et sociaux pour analyser les grandes tendances humaines. Il se définit aussi comme un militant. « Je ne suis pas un scientifique, dit-il, car je cherche... Je ne suis pas qu'un scientifique, dit-il, car je cherche à changer le monde. »
Et monsieur, est-ce qu'il est optimiste, il est pessimiste? Comment il voit ça?
Mais comme il l'admet lui-même, nos perspectives d'avenir sont plutôt sombres, mais en même temps... Il n'est pas trop tard pour agir, loin de là. J'entrevois un monde en stagnation. Nous ne serons pas sortis du marasme économique dans lequel l'Europe et l'Amérique se trouvent plongées depuis 10 ou 15 ans. Selon lui, les pays riches connaîtront une lente croissance économique d'ici 2052, mais le chômage demeurera élevé, les tensions sociales seront nombreuses et les inégalités sociales continueront de s'accentuer. Le tout ira de pair avec la détérioration du climat. Les phénomènes météorologiques deviendront de plus en plus extrêmes. Il y aura de plus en plus de sécheresses, d'inondations, de feux de forêt, alors que le niveau des océans s'élèvera progressivement.
Oui.
Enfin, c'est pas trop rose, hein, jusqu'à présent.
Non, pas vraiment.
Le futurologue estime que la population mondiale atteindra 8,1 milliards de personnes vers 2040, avant de décroître en raison de l'urbanisation et du manque de ressources. Déjà, nous utilisons les ressources de la planète à un rythme une fois et demie, ce qu'elle peut soutenir, et nous approchons de points de rupture.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter que ce soit aussi catastrophique que ce qu'il nous propose, là?
Au terme de 40 années de recherche et de militantisme, M. Randers est visiblement frustré. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'on aurait pu, et qu'on pourrait même encore, remédier au sort qui nous attend, si seulement on le voulait en tant qu'individu et que société. Les solutions qu'on pourrait mettre de l'avant sont très bien connues, mais elles coûtent quelque chose. Mmh. C'est ainsi que chaque fois qu'un gouvernement propose d'augmenter les taxes et les impôts pour mettre de l'avant des solutions durables, les citoyens électeurs, je pense que c'est nous autres,
ça,
s'y opposent. Alors, les marchés financiers, les démocraties parlementaires fonctionnent à court terme, principalement à cause de la courte vue des citoyens. Voilà ce qui rend peu probable l'éventualité que le libre marché mette en place à temps des solutions appropriées et que les gouvernements adoptent les législations nécessaires. Ce dont nous aurions besoin, c'est un système de gouvernance qui prendrait davantage à cœur l'intérêt de nos enfants et petits-enfants, plaide ce grand-père. Une gouvernance qui penserait donc aux générations futures. Nous avons donc besoin de gouvernements forts qui pourraient nous obliger tous à penser et agir à long terme.
Qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'il propose des solutions?
Lui, comme il ne croit pas que nous prendrons les moyens nécessaires pour atténuer les conséquences du marasme économique et climatique qu'on se prépare à avoir, il propose, dans son livre, que chacun d'entre nous s'adapte progressivement au monde de demain. Ce qu'il préconise, ce sont avant tout des changements de valeurs, afin de remédier au fait qu'on surconsomme. Il s'agit en fait de réduire notre empreinte écologique tout en adoptant un mode de vie plus satisfaisant pour nous-mêmes. Il faut comprendre que nos goûts, nos désirs sont des choses qu'on développe ou qu'on ne développe pas. On peut donc choisir de vivre en consommant énormément de ressources ou non. Par exemple, si vous avez développé le goût de disposer d'une maison de campagne avec un grand terrain sur le bord de l'eau, en plus d'une résidence en ville ou en banlieue, et que vous désirez aussi voyager beaucoup, vous consommez alors plus de ressources que la Terre peut en donner. Pire, plus le temps passera et moins ce mode de vie sera viable. Réduire ses désirs et ses besoins sera peut-être un comportement bénéfique pour soi-même si on veut éviter d'être au premier rang des victimes des changements climatiques. D'ailleurs, le professeur Anders considère que les jeunes, puis les moins jeunes, on en a parlé un petit peu tantôt, qui recourent couramment aux technologies multimédia, s'adaptent particulièrement bien au monde que sera le monde de 2052.
Tant mieux pour eux, hein?
Le Québec et la Norvège, parce que c'est un professeur norvégien, ont énormément en commun. La même superficie, deux populations différentes, plusieurs langues de l'hydroélectricité, de l'éolien comme source d'énergie.
Et le froid aussi.
Et le froid. Il s'agit bien entendu de deux pays nordiques. Alors, on est confrontés, la Norvège et nous, au même genre de réalité. Alors, c'était un résumé de l'article « Comment survivre à 2052 » écrit par Claude Lafleur dans Le Devoir du 28 février 2015.
En Angleterre, c'est la fin d'une époque. C'est que 150 ans après son adoption, le casque des Bobbies, je connaissais les Bobbies britanniques, le casque pourrait disparaître des écrans radars. C'est la police de West Yorkshire qui a annoncé qu'elle remplacerait ses traditionnels casques par des casquettes. Étonnant, hein? Les agents se plaignent de ne pas pouvoir courir avec le casque.
Les pauvres petits. C'est ça, ils font tous 1,80 m.
Pour un policier, quand même. Hein? Et en 2002, la demande générale, la hauteur du casque a été réduite de 12 pouces. C'était 12 pouces, quand même. Hein? C'est beaucoup. Pouces, hein? C'est pour ça qu'ils ont tous l'air grands. Ça a été réduit de 12 pouces à 9 pouces. Il y a des avantages, parce qu'on peut voir venir le policier de loin. Est-ce que c'est un avantage?
C'est un avantage. Ben,
c'est un avantage pour certains. Policiers arrivent. C'est la police de Londres qui est évidemment le dernier bastion de résistance. Bon, vous savez qu'au début, le casque, les policiers portaient une haute forme. Hein? Bon, il était encore plus identifiable. Ben, on les voyait venir de loin. Hein? Et vous savez qu'on le porte aussi en vigueur. Il est en vigueur aux Bermudes et à Gibraltar. Et même en version blanche. Colonialiste par la police de Toronto lors de cérémonies officielles. Donc, en voie de disparition, on va les voir venir de moins en moins. Voilà. Alors, voilà, notre émission tire à sa fin. On espère que nos sujets ont été variés, vous ont intéressé. Ben, je tiens à remercier particulièrement Jean-Sébastien.
Jean-Sébastien, merci.
Magnifique sélection musicale. Et aussi, ben, merci à André-Étienne et Yvan Deslauriers. Ben, moi, je me nomme rarement. Mon nom, c'est Michel Audet, en passant. Hein?
Oui, puis là, j'en profite pour dire au revoir à tout le monde.
Au revoir à tout le monde. À la semaine prochaine.
Envoyez-nous des nouvelles sur canalm.org. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et vos commentaires. Et on vous souhaite une très bonne semaine.
Oui, puis allez voir sur la presse plus, on parle de nous.